Flaubert a 17 ans quand il écrit « Mémoire d'un fou ».
À toi, mon cher Alfred, ces pages sont dédiées et données. Elles renferment une âme tout entière. Est-ce la mienne? Est-ce celle d'un autre? J'avais d'abord voulu faire un roman intime où le scepticisme serait poussé jusqu'aux dernières bornes du désespoir, mais peu à peu, en écrivant, l'impression personnelle perça à travers la fable et l'âme remua la plume et l'écrasa. J'aime donc mieux laisser cela dans le mystère des conjectures. Pour toi, tu n'en feras pas. Seulement, tu croiras peut-être, en bien des endroits, que l'expression est forcée et le tableau assombri à plaisir. Rappelle-toi que c'est un fou qui a écrit ces pages, et si le mot paraît souvent surpasser le sentiment qu'il exprime, c'est que, ailleurs, il a fléchi sous le poids du cœur. Adieu. Pense à moi et pour moi. Pourquoi écrire ces pages? À quoi sont-elles bonnes? Qu'en sais-je moi-même? Cela est assez sot à mon gré d'aller demander aux hommes le motif de leurs actions et de leurs écrits. Savez-vous vous-même pourquoi vous avez ouvert les misérables feuilles que la main d'un fou va tracer? Un fou, cela fait horreur. Et qu'êtes-vous, vous, lecteur? Dans quelle catégorie te ranges-tu? Dans celle des sots ou celle des fous? Si l'on te donnait à choisir, ta vanité préférerait encore la dernière condition. Oui, encore une fois, quoi est-il bon, je le demande, en vérité, un livre qui n'est ni instructif, ni amusant, ni chimique, ni philosophique, ni agricultural, ni élégiaque. Un livre qui ne donne aucune recette ni pour les moutons ni pour les puces, qui ne parle ni des chemins de fer, ni de la bourse, ni des replis intimes du cœur humain, ni des habits du Moyen-Âge, ni de Dieu, ni du diable, mais qui parle d'un fou, c'est-à-dire le monde, ce grand idiot qui tourne depuis tant de siècles dans l'espace sans faire un pas, et qui hurle et qui bave et qui se déchire lui-même. Je ne sais pas plus que vous ce que vous allez lire, car ce n'est point un roman ni un drame avec un plan fixe ou une seule idée préméditée, avec des jalons pour faire serpenter la pensée dans des allées tirées au cordeau. Seulement, je vais mettre sur le papier tout ce qui me viendra à la tête, mes idées avec mes souvenirs, mes impressions, mes rêves, mes caprices, tout ce qui passe dans la pensée et dans l'âme. Du rire et des pleurs, du blanc et du noir, des sanglots partis d'abord du cœur et étalés comme de la pâte, dans des périodes sonores et des larmes délayées, dans des métaphores romantiques. Il me pèse cependant à penser que je vais écraser le bec un paquet de plumes, que je vais user une bouteille d'encre, que je vais ennuyer le lecteur et m'ennuyer moi-même. J'ai tellement pris d'habitude du rire et du scepticisme qu'on y trouvera, depuis le commencement jusqu'à la fin, une plaisanterie perpétuelle, et les gens qui aiment à rire pourront à la fin rire de l'auteur et d'eux-mêmes. On y verra comment il y faut croire au plan de l'univers, aux devoirs moraux de l'homme, à la vertu et à la philanthropie, mot que j'ai envie de faire inscrire sur mes bottes quand j'en aurai, afin que tout le monde le lise et l'apprenne par cœur, même les vues les plus basses, les coups les plus petits, les plus rampants, les plus près du ruisseau. On aurait tort de voir dans ceci autre chose que les récréations d'un pauvre fou. Un fou. Et vous, lecteur, vous venez peut-être de vous marier ou de payer vos dettes. Chapitre 2. Je vais donc écrire l'histoire de ma vie. Quelle vie! Mais ai-je vécu? Je suis jeune, j'ai le visage sans ride et le cœur sans passion. Oh, comme elle fut calme, comme elle paraît douce et heureuse, tranquille et pure, oh oui, paisible et silencieuse, comme un tombeau dont l'âme serait le cadavre. À peine ai-je vécu, je n'ai point connu le monde, c'est-à-dire, je n'ai point de maîtresse, de flatteur, de domestique, d'équipage, je ne suis pas entré, comme on dit, dans la société, car elle m'a paru toujours fausse et sonore, et couverte de clinquants, ennuyeuse et guindée. Or, ma vie, ce ne sont pas des faits. Ma vie, c'est ma pensée. Quelle est donc cette pensée qui m'amène maintenant à l'âge où tout le monde sourit, se trouve heureux, où l'on se marie, où l'on aime, à l'âge où tant d'autres s'enivrent de toutes les amours et de toutes les gloires, alors que tant de lumières brillent et que les vers sont remplis au festin, à me trouver seul et nu, froid à toute inspiration, à toute poésie, me sentant mourir et riant cruellement de ma lente agonie, comme cet épicurien qui se fit ouvrir les veines, se baigna dans un bain parfumé et mourut en riant, comme un homme qui sort ivre d'une orgie qui l'a fatigué. Oh, comme elle fut longue, cette pensée, comme une hydre, elle me dévora sous toutes ses faces. Pensée de deuil et d'amertume, pensée de bouffon qui pleure, pensée de philosophe qui médite. Oh oui, combien d'heures se sont écoulées dans ma vie, longues et monotones, à penser, à douter. Combien de journées d'hiver, la tête baissée devant mes tisons, blanchie au pâle reflet du soleil couchant. Combien de soirées d'été, par les champs au crépuscule, à regarder les nuages s'enfuir et se déployer, les blés se plier sous la brise, entendre les bois frémir et écouter la nature qui soupire dans les nuits. Oh, comme mon enfance fut rêveuse! Comme j'étais un pauvre fou, sans idée fixe, sans opinion positive. Je regardais l'eau couler entre les massifs d'arbres qui penchent leurs chevelures de feuilles et laissent tomber des fleurs. Je contemplais de dedans mon berceau, la lune sur son front d'azur, qui éclairait ma chambre et dessinait des formes étranges sur les murailles. J'avais des extases devant un beau soleil ou une matinée de printemps, avec son brouillard blanc, ses arbres fleuris, ses marguerites en fleurs. J'aimais aussi, et c'est un de mes plus tendres et délicieux souvenirs, à regarder la mer, les vagues moussées l'une sur l'autre, la lame se briser en écume, s'étendre sur la plage et crier en se retirant sur les cailloux et les coquilles. Je courais sur les rochers, je prenais le sable de l'océan que je laissais s'écouler au vent entre mes doigts. Je mouillais des varechs et j'aspirais à pleine poitrine cet air salé et frais de l'océan qui vous pénètre l'âme de tant d'énergie, de poétiques et larges pensées. Je regardais l'immensité, l'espace, l'infini, et mon âme s'abîmait devant cet horizon sans borne. Oh mais, ce n'est pas là que l'horizon sans borne, le gouffre immense. Oh non, un plus large et plus profond abîme s'ouvrit devant moi. Ce gouffre-là n'a point de tempête. S'il y avait une tempête, il serait plein. Et il est vide. J'étais gai et riant, aimant la vie et ma mère, pauvre mère. Je me rappelle encore mes petites joies, avoir les chevaux courir sur la route, avoir la fumée de toute haleine et la sueur inonder leur harnais. J'aimais le trot monotone et cadencé qui fait osciller les soupentes, et puis quand on s'arrêtait, tout se taisait dans les champs. On voyait la fumée sortir de leurs naseaux, où la voiture ébranlée se raffermissait sur ses ressorts, le vent sifflait sur les vitres et c'était tout. Oh, comme j'ouvrais aussi de grands yeux sur la foule en habit de fête, joyeuse, tumultueuse avec des cris. Mère d'hommes orageuse, plus colère encore que la tempête et plus sotte que sa furie. J'aimais les chars, les chevaux, les armées, les costumes de guerre, les tambours battants, le bruit, la poudre et les canons roulant sur le pavé des villes. Enfant, j'aimais ce qui se voit. Adolescent, ce qui se sent. Homme, je n'aime plus rien. Et cependant, combien de choses j'ai dans l'âme, combien de forces intimes et combien d'océans de colère et d'amour se heurtent, se brisent dans ce cœur si faible, si débile, si lassé, si épuisé. On me dit de reprendre la vie, de me mêler à la foule. Et comment la branche cassée peut-elle porter des fruits? Comment la feuille arrachée par les vents et traînée dans la poussière peut-elle reverdir? Et pourquoi si jeune tant d'amertume? Que sais-je? Il était peut-être dans ma destinée de vivre ainsi, lassé avant d'avoir porté le fardeau haletant, avant d'avoir couru. J'ai lu, j'ai travaillé dans l'ardeur de l'enthousiasme, j'ai écrit. Oh, comme j'étais heureuse alors! Comme ma pensée, dans son délire, s'envolait haut dans ces régions inconnues aux hommes où il n'y a ni monde, ni planète, ni soleil. J'avais un infini plus immense, s'il est possible, que l'infini de Dieu, où la poésie se berçait et déployait ses ailes dans une atmosphère d'amour et d'extase. Et puis il fallait redescendre de ces régions sublimes vers les mots, et comment rendre par la parole cette harmonie qui s'élève dans le cœur du poète et les pensées de géants qui font ployer les phrases comme une main forte et gonflée fait crever le gant qui la couvre. Là encore, la déception. Car nous touchons à la terre, à cette terre de glace où tout se meurt, où toute énergie faiblit. Par quels échelons descendre de l'infini au positif? Par quelle gradation la pensée s'abaisse-t-elle sans se briser? Comment rapetisser ce géant qui embrasse l'infini? Alors, j'avais des moments de tristesse et de désespoir. Je sentais ma force qui me brisait, et cette faiblesse dont j'avais honte, car la parole m'est un écho lointain et affaiblit de la pensée. Je maudissais mes rêves les plus chers et mes heures silencieuses passées sur la limite de la création. Je sentais quelque chose de vide et d'insatiable qui me dévorait. Lassé de la poésie, je me lançais dans le champ de la méditation. Je fus épris d'abord de cette étude imposante qui se propose l'homme pour but et qui veut se l'expliquer, enfin qui va jusqu'à disséquer les hypothèses et à discuter sur les suppositions les plus abstraites et à penser, à peser géométriquement les mots les plus vides. L'homme, grain de sable jeté dans l'infini par une main inconnue, pauvre insecte aux faibles pattes, qui veut se retenir sur le bord du gouffre à toutes les branches, qui se rattache à la vertu, à l'amour, à l'ambition, et qui fait des vertus de tout cela pour mieux s'y tenir, qui se cramponne à Dieu et qui faiblit toujours, lâche les mains et tombe. Homme qui veut comprendre ce qui n'est pas et faire une science du néant, homme, âme faite à l'image de Dieu et dont le génie sublime s'arrête à un brin d'herbe et ne peut franchir le problème d'un grain de poussière. Et la lassitude me prit. Je vins à douter de tout. Jeune, j'étais vieux. Mon cœur avait des rides et en voyant des vieillards encore vifs, pleins d'enthousiasme et de croyance, je riais amèrement sur moi-même, si jeune, si désabusé de la vie, de l'amour, de la gloire de Dieu, de tout ce qui est, de tout ce qui peut être. J'eus cependant une horreur naturelle avant d'embrasser cette foi au néant, au bord du gouffre. Je fermais les yeux, j'y tombais. Je fus content. Je n'avais plus de chute à faire. J'étais froid et calme comme la pierre d'un tombeau. Je croyais trouver le bonheur dans le doute, insensé que j'étais. On y roule dans un vide incommensurable. Ce vide-là est immense et fait dresser les cheveux d'horreur quand on s'approche du bord. Du doute de Dieu, j'en vins au doute de la vertu, fragile idée que chaque siècle a dressée comme il a pu sur l'échafaudage des lois plus vacillantes encore. Je vous conterai plus tard toutes les phases de cette vie morne et méditative, passée au coin du feu, les bras croisés, avec un éternel bâillement d'ennui, seul pendant tout un jour, et tournant de temps en temps mes regards sur la neige des toits voisins, sur le soleil couchant avec ses jets de pâle lumière, sur le pavé de ma chambre ou sur une tête de mort jaune et dentée et grimaçant sans cesse sur ma cheminée, symbole de la vie et comme elle, froide et railleuse. Plus tard, vous lirez peut-être toutes les angoisses de ce cœur si battu, si navré d'amertume. Vous saurez les aventures de cette vie si paisible et si banale, si remplie de sentiments, si vide de faits. Et vous me direz ensuite si tout n'est pas une dense dérision et une moquerie, si tout ce qu'on chante dans les écoles, tout ce qu'on délaie dans les livres, tout ce qui se voit, se sent, se parle, si tout ce qui existe, je n'achève pas, tant j'ai d'amertume à le dire, eh bien, si tout cela enfin n'est pas de la pitié, de la fumée et du néant. Chapitre 4. C'était d'effroyables visions à rendre fou de terreur. J'étais couché dans la maison de mon père, tous les meubles étaient conservés, mais tout ce qui m'entourait cependant avait une teinte noire. C'était une nuit d'hiver, et la neige jetait une clarté blanche dans ma chambre. Tout à coup, la neige se fondit, et les herbes et les arbres prirent une teinte rousse et brûlée, comme si un incendie eût éclairé les fenêtres. J'entendis des bruits de pas, montait l'escalier. Un air chaud, une vapeur fétide monta jusqu'à moi. Ma porte s'ouvrit d'elle-même. On entra, ils étaient beaucoup, peut-être 7 à 8, je n'eus pas le temps de les compter. Ils étaient petits ou grands, couverts de barbes noires et rudes, sans armes, mais tous avec une lame d'acier entre les dents, et comme ils s'approchèrent en cercle autour de mon berceau, leurs dents vinrent à clater, et ce fut horrible. Ils écartèrent mes rideaux blancs, et chaque doigt laissait une trace de sang. Ils me regardèrent avec de grands yeux fixes et sans paupières. Je les regardais aussi, je ne pouvais faire aucun mouvement, je voulus crier. Il me sembla alors que la maison se levait de ses fondements, comme si un levier l'eût soulevé. Ils me regardèrent ainsi longtemps, puis ils s'écartèrent, et je vis que tous avaient un côté du visage sans peau et qui saignait lentement. Ils soulevèrent tous mes vêtements et tous avaient du sang. Ils se mirent à manger, et le pain qu'ils rompirent laissait échapper du sang qui tombait goutte à goutte, et ils se mirent à rire comme le râle d'un mourant. Puis, quand ils n'y furent plus, tout ce qu'ils avaient touché, les lambris, l'escalier, le plancher, tout cela était rougi par eux. J'avais un goût d'amertume dans le cœur. Il me sembla que j'avais mangé de la chair, et j'entendis un cri prolongé, rauque, aigu, et les fenêtres et les portes s'ouvrirent lentement, et le vent les faisait battre et crier, comme une chanson bizarre dont chaque sifflement me déchirait la poitrine avec un stylet. Ailleurs, c'était dans une campagne verte et émaillée de fleurs, le long d'un fleuve. J'étais avec ma mère, qui marchait du côté de la rive. Elle tomba. Je vis l'eau écumer, des cercles s'agrandir et disparaître tout à coup. L'eau reprit son cours, et puis je n'entendis plus que le bruit de l'eau qui passait entre les joncs et faisait ployer les roseaux. Tout à coup, ma mère m'appela. « Au secours! Au secours, ô mon pauvre enfant! Au secours! À moi !» Je me penchai à plat ventre sur l'herbe pour regarder. Je ne vis rien. Les cris continuaient. Une force invincible m'attachait sur la terre, et j'entendais les cris. « Je me noie! Je me noie! À mon secours !» L'eau coulait. Coulait limpide, et cette voix que j'entendais du fond du fleuve m'abîmait de désespoir et de rage. Chapitre 5. Voilà donc comme j'étais, rêveur, insouciant, avec l'humeur indépendante et railleuse, me bâtissant une destinée, rêvant à toute la poésie d'une existence pleine d'amour, vivant aussi sur mes souvenirs autant qu'à 16 ans on peut en avoir. Le collège m'était antipathique. Ce serait une curieuse étude que ce profond dégoût des âmes nobles et élevées, manifesté de suite par le contact et le froissement des hommes. Je n'ai jamais aimé une vie réglée, des heures fixes, une existence d'horloge, où il faut que la pensée s'arrête avec la cloche, où tout est remonté d'avance pour des siècles et des générations. Cette régularité, sans doute, peut convenir au plus grand nombre, mais pour le pauvre enfant, qui se nourrit de poésie, de rêves et de chimères, qui pense à l'amour et à toutes les balivernes, c'est l'éveiller sans cesse de ce son sublime, c'est ne pas lui laisser 10 moments de repos, c'est l'étouffer en le ramenant dans notre atmosphère de matérialisme et de bon sens, dont il a horreur et dégoût. J'allais à l'écart avec un livre de vers, un roman, de la poésie, quelque chose qui fasse tressaillir un cœur de jeune homme vierge de sensations et si désireux d'en avoir. Je me rappelle avec quelle volupté je dévorais alors les pages de Byron et de Werther, avec quel transport je lus Hamlet, Roméo, les ouvrages les plus brûlants de notre époque, toutes ces œuvres enfin qui font de l'âme en délice ou la brûlent d'enthousiasme. Je me nourris donc de cette poésie âpre du Nord qui retentit si bien comme les vagues de la mer dans les œuvres de Byron. Souvent j'en retenais à la première lecture des fragments entiers et je me les répétais à moi-même comme une chanson qui vous a charmé et dont la mélodie vous poursuit toujours. Combien de fois n'ai-je pas dit le commencement du yaourt ? Pas un souffle d'air, ou bien dans Shine Harold, jadis dans l'antique Albion, et ô mère, je t'ai toujours aimé. La platitude de la traduction française disparaissait devant les pensées seules, comme si elles eussent eu un style à elles, sans les mots eux-mêmes. Ce caractère de passion brûlante, joint à une si profonde ironie, devait agir fortement sur une nature ardente et vierge. Tous ces échos inconnus à la somptueuse dignité des littératures classiques avaient pour moi un parfum de nouveauté, un attrait qui m'attirait sans cesse vers cette poésie géante qui nous donne le vertige et nous fait tomber dans le gouffre sans fond de l'infini. Je m'étais donc faussé le goût et le cœur, comme disaient mes professeurs, et parmi tant d'êtres aux penchants si ignobles, mon indépendance d'esprit m'avait fait estimer le plus dépravé de tous. J'étais ravalé au plus bas rang par la supériorité même. À peine si on me cédait l'imagination, c'est-à-dire, selon eux, une exaltation de cerveau voisine de la folie. Voilà quelle fut mon entrée dans la société et l'estime que je m'y attirais.
Chapitre 6.
Si l'on calomniait mon esprit et mes principes, on n'attaquait pas mon cœur, car j'étais bon alors, et les misères d'autrui m'arrachaient des larmes. Je me souviens que, tout enfant, j'aimais à vider mes poches dans celles du pauvre. De quel sourire ils accueillaient mon passage, et quel plaisir aussi j'avais à leur faire du bien. C'est une volupté qui m'est depuis longtemps inconnue, car maintenant j'ai le cœur sec, les larmes se sont séchées. Mais malheur aux hommes qui m'ont rendu corrompu et méchant, de bon et de pur que j'étais. Malheur à cette aridité de la civilisation qui dessèche et étiole tout ce qui s'élève au soleil de la poésie et du cœur. Cette vieille société corrompue qui a tout séduit et tout usé. Ce vieux juif cupide mourra de marasme et d'épuisement sur ces tas de fumier qu'il appelle ses trésors. Sans poète pour chanter sa mort, sans prêtre pour lui fermer les yeux, sans or pour son mausolée, car il aura tout usé pour ses vices.
Chapitre 7.
Quand donc finira cette société abâtardie par toutes les débauches d'esprit, de corps et d'âme? Alors il y aura sans doute une joie sur la terre, quand ce vampire menteur et hypocrite qu'on appelle civilisation viendra à mourir. On quittera le manteau royal, le sceptre, les diamants, le palais qui s'écroule, la ville qui tombe, pour aller rejoindre la cavale et la louve. Après avoir passé sa vie dans les palais et usé ses pieds sur les dalles des grandes villes, l'homme ira mourir dans les bois. La terre sera séchée par les incendies qui l'ont brûlée et toute pleine de la poussière des combats. Le souffle de désolation qui a passé sur les hommes aura passé sur elle, et elle ne donnera plus que des fruits amers et des roses d'épines, et les races s'éteindront au berceau comme les plantes battues par les vents qui meurent avant d'avoir fleuri. Car il faudra bien que tout finisse et que la terre s'use à force d'être foulée, car l'immensité doit être lasse enfin de ce grain de poussière qui fait tant de bruit et de trouble, et qui trouble la majesté du néant. Il faudra que l'or s'épuise à force de passer dans les mains et de corrompre. Il faudra bien que cette vapeur de sang s'apaise, que le palais s'écroule sous le poids des richesses qu'il recèle, que l'orgie finisse et qu'on se réveille. Alors il y aura un rire immense de désespoir quand les hommes verront ce vide, quand il faudra quitter la vie pour la mort qui mange, qui a faim toujours, et tout craquera pour s'écrouler dans le néant, et l'homme vertueux maudira sa vertu, et le vice battra des mains. Quelques hommes, encore errants dans une terre aride, s'appelleront mutuellement, ils iront les uns vers les autres, et ils reculeront d'horreur, effrayés d'eux-mêmes, et ils mourront. Que sera l'homme alors, lui qui est déjà plus féroce que les bêtes fauves et plus vif que les reptiles? Adieu pour jamais, chars éclatants, fanfares et renommées, adieu au monde, à ses palais, à ses mausolées, aux voluptés du crime et aux joies de la corruption. La pierre tombera tout à coup écrasée par elle-même, et l'herbe poussera dessus. Et les palais, les temples, les pyramides, les colonnes, mausolées du roi, cercueils du pauvre, charognes du chien, tout cela sera à la même hauteur, sous le gazon de la terre. Alors, la mer, sans digue, battra en repos les rivages et ira baigner ses flots sur la cendre encore fumante des cités. Les arbres pousseront, verdiront, sans une main pour les casser et les briser. Les fleuves couleront dans des prairies émaillées. La nature sera libre, sans homme pour la contraindre. Et cette race sera éteinte, car elle était maudite dès son enfance. Triste et bizarre époque que la nôtre. Vers quel océan ce torrent d'iniquité coule-t-il? Où allons-nous dans une nuit si profonde? Ceux qui veulent palper ce monde malade se retirent vite, effrayés de la corruption qui s'agite dans ses entrailles. Quand Rome se sentit à son agonie, elle avait au moins un espoir. Elle entrevoyait derrière le linceul la croix radieuse brillant sur l'éternité. Cette religion a duré 2000 ans, et voilà qu'elle s'épuise, qu'elle ne suffit plus et qu'on s'en moque. Voilà ces églises qui tombent, ces cimetières tassés de morts et qui regorgent. Et nous, quelle religion aurons-nous? Être si vieux que nous le sommes, et marcher encore dans le désert comme les Hébreux qui fuyaient l'Égypte. Où sera la terre promise? Nous avons essayé de tout, et nous renions tout sans espoir. Et puis une étrange cupidité nous a pris dans l'âme et l'humanité. Il y a une inquiétude immense qui nous ronge, il y a un vide dans notre foule. Nous sentons autour de nous un froid de sépulcre. L'humanité s'est prise à tourner des machines, et voyant l'or qui en ruisselait, elle s'est écriée « C'est Dieu !» Et ce Dieu-là, elle le mange. Il y a, c'est que tout est fini, adieu, adieu, du vin avant de mourir. Chacun se rue où le pousse son instinct. Le monde fourmille comme les insectes sur un cadavre. Les poètes passent sans avoir le temps de sculpter leurs pensées, à peine s'ils les jettent sur des feuilles et les feuilles volent. Tout brille et tout retentit dans cette mascarade, sous ces royautés d'un jour et ces sceptres de carton. L'or roule, le vin ruisselle, la débauche froide lève sa robe et remue. Horreur, horreur. Et puis, il y a sur tout cela un voile dont chacun prend sa part et se cache le plus qu'il peut. Dérision, horreur. Chapitre 10. Ici sont mes souvenirs les plus tendres, les plus pénibles à la fois, et je les aborde avec une émotion toute religieuse. Ils sont vivants à ma mémoire et presque chauds encore pour mon âme, tant cette passion l'a fait saigner. C'est une large cicatrice au cœur qui durera toujours. Mais au moment de retracer cette page de ma vie, mon cœur bat comme si j'allais remuer des ruines chéries. Elles sont déjà vieilles, ces ruines. Marchant dans la vie, l'horizon s'est écarté par derrière et que de choses depuis lors. Car les jours semblent longs, un à un, depuis le matin jusqu'au soir. Mais le passé paraît rapide, tant l'oubli rétrécit le cadre qu'il a contenu. Pour moi, tout semble vivre encore. J'entends et je vois le frémissement des feuilles. Je vois jusqu'au moindre pli de sa robe. J'entends le timbre de sa voix, comme si un ange chantait près de moi. Voix douce et pure, qui vous enivre et qui vous fait mourir autour. Voix qui a un corps, tant elle est belle, et qui séduit comme s'il y avait un charme à ses mots. Vous dire l'année précise me serait impossible. Mais alors j'étais fort jeune, j'avais, je crois, 15 ans. Nous allâmes cette année au bas de mer de X, village de Picardie, charmant, avec ses maisons entassées les unes sur les autres, noires, grises, rouges, blanches, tournées de tous côtés, sans alignement et sans symétrie, comme un tas de coquilles et de cailloux que la vague a poussé sur la côte. Il y a quelques années, personne n'y venait, malgré sa plage d'une demi-lieue de grandeur et sa charmante position, mais depuis peu, la vogue s'y est tournée. La dernière fois que j'y fus, je vis quantité de gants jaunes et de livrées. On proposait même d'y construire une salle de spectacle. Alors, tout était simple et sauvage. Il n'y avait guère que des artistes et des gens du pays. Le rivage était désert et à marée basse, on voyait une plage immense avec un sable gris et argenté qui scintillait au soleil, tout humide encore de la vague. À gauche, des rochers où la mer battait paresseusement dans ses jours de sommeil, les parois noircies de varech, puis au loin, l'océan bleu, sous un soleil ardent et mugissant sourdement comme un géant qui pleure. Et quand on rentrait dans le village, c'était le plus pittoresque et le plus chaud spectacle. Des filets noirs et rongés par l'eau étendus aux portes, partout les enfants à moitié nus marchant sur un galet gris, seul pavage du lieu, des marins avec leurs vêtements rouges et bleus, et tout cela simple dans sa grâce, naïf et robuste, tout cela empreint d'un caractère de vigueur et d'énergie. J'allais souvent seul me promener sur la grève. Un jour, le hasard me fit aller vers l'endroit où l'on se baignait. C'était une place, non loin des dernières maisons du village, fréquentée plus spécialement pour cet usage. Hommes et femmes nageaient ensemble, on se déshabillait sur le rivage ou dans sa maison et on laissait son manteau sur le sable. Ce jour-là, une charmante pelisse rouge avec des raies noires était restée sur le rivage. La marée montait, le rivage était festonné d'écume Déjà un flot plus fort avait mouillé les franges de soie de ce manteau. Je l'ôtais pour le placer au loin. L'étoffe en était moelleuse et légère, c'était un manteau de femme. Apparemment, on m'avait vu, car le jour même, au repas de midi, et comme tout le monde mangeait dans une salle commune à l'auberge où vous êtes logé, j'entendis quelqu'un qui me disait « Monsieur, je vous remercie bien de votre galanterie. » Je me retournais. C'était une jeune femme assise avec son mari à la table voisine. « Quoi donc ?» lui demandai-je préoccupé. « D'avoir ramassé mon manteau, n'est-ce pas vous ?»« Oui, madame, » repris-je embarrassée. Elle me regarda. Je baissai les yeux et rougis. Quel regard, en effet ! Comme elle était belle, cette femme ! Je vois encore cette prunelle ardente sous un sourcil noir se fixer sur moi comme un soleil. Elle était grande, brune, avec de magnifiques cheveux noirs qui lui tombaient en tresse sur les épaules. Son nez était grec, ses yeux brûlants, ses sourcils hauts et admirablement arqués. Sa peau était ardente et comme veloutée avec de l'or. Elle était mince et fine. On voyait des veines d'azur serpenter sur cette gorge brune et pourprée. Joignez à cela un duvet fin qui brunissait sa lèvre supérieure et donnait à sa figure une expression mâle, énergique, à faire pâlir les beautés blondes. On aurait pu lui reprocher trop d'embonpoint, ou plutôt un négligé artistique. Aussi les femmes en général la trouvaient-elles de mauvais ton. Elle parlait lentement, c'était une voix modulée, musicale et douce. Elle avait une robe fine de mousseline blanche qui laissait voir les contours moelleux de son bras. Quand elle se leva pour partir, elle mit une capote blanche avec un seul nœud rose. Elle le noua d'une main fine et potelée, une de ces mains dont on rêve longtemps et qu'on brûlerait de baisers. Chaque matin, j'allais la voir se baigner. Je la contemplais de loin, sous l'eau. J'enviais la vague molle et paisible qui battait sur ses flancs et couvrait d'écume cette poitrine haletante. Je voyais le contour de ses membres sous les vêtements mouillés qui la couvraient. Je voyais son cœur battre, sa poitrine se gonfler. Je contemplais machinalement son pied se poser sur le sable et mon regard restait fixé sur la trace de ses pas. Et j'aurais pleuré presque en voyant le flot les effacer lentement. Et puis, quand elle revenait et qu'elle passait près de moi, que j'entendais l'eau tomber de ses habits et le frôlement de sa marche, mon cœur battait avec violence. Je baissais les yeux, le sang me montait à la tête, j'étouffais. Je sentais ce corps de femme à moitié nu passer près de moi avec le parfum de la vague. Sourd et aveugle, j'aurais deviné sa présence, car il y avait en moi quelque chose d'intime et de doux qui se noyait en extase et en gracieuse pensée quand elle passait ainsi. Je crois voir encore la place où j'étais fixé sur le rivage. Je vois les vagues accourir de toutes parts, se briser, s'étendre. Je vois la plage festonner d'écume. J'entends le bruit des voix confuses, des baigneurs parlant entre eux. J'entends le bruit de ses pas, j'entends son haleine quand elle passait près de moi. J'étais immobile de stupeur, comme si la Vénus fût descendue de son piédestal et s'était mise à marcher. C'est que, pour la première fois alors, je sentais mon cœur, je sentais quelque chose de mystique, d'étrange, comme un sens nouveau. J'étais baigné de sentiments infinis, tendres, j'étais bercé d'images vaporeuses, vagues, j'étais plus grand et plus fier tout à la fois. J'aimais. Aimer, se sentir jeune et plein d'amour, sentir la nature et ses harmonies palpiter en vous, avoir besoin de cette rêverie, de cette action du cœur, et s'en sentir heureux. Oh, les premiers battements du cœur de l'homme, ses premières palpitations d'amour, qu'elles sont douces et étranges, puis plus tard, comme elles paraissent niaises et sottement ridicules. Chose bizarre, il y a tout ensemble du tourment et de la joie dans cette insomnie. Est-ce par vanité encore ? Ah, L'amour ne serait-il que de l'orgueil? Faut-il nier ce que les impies respectent? Faudrait-il rire du cœur? Hélas, hélas! La vague a effacé les pas de Maria. Ce fut d'abord un singulier état de surprise et d'admiration, une sensation toute mystique en quelque sorte, toute idée de volupté à part. Ce ne fut que plus tard que je ressentis cette ardeur frénétique et sombre de la chair et de l'âme et qui dévore l'une et l'autre. J'étais dans l'étonnement du cœur qui sent sa première pulsation. J'étais comme le premier homme quand il eut connu toutes ses facultés. À quoi je rêvais serait fort impossible à dire. Je me sentais nouveau et tout étranger à moi-même. Une voix m'était venue dans l'âme, un rien, un pli de sa robe, un sourire, son pied, le moindre mot insignifiant m'impressionnait comme des choses surnaturelles. Et j'avais pour tout un jour à en rêver. Je suivais sa trace à l'angle d'un long mur, et le frôlement de ses vêtements me faisait palpiter d'aise. Quand j'entendais ses pas, les nuits qu'elle marchait ou qu'elle avançait vers moi, non, je ne saurais vous dire combien il y a de douces sensations d'enivrement du cœur, de béatitude et de folie dans l'amour. Et maintenant, si rieur surtout, si amèrement, persuadé du grotesque de l'existence, je sens encore que l'amour, enfin cet amour comme je l'ai rêvé au collège sans l'avoir, et que j'ai ressenti plus tard, qui m'a tant fait pleurer et dont j'ai tant ri, combien je crois encore que ce serait tout à la fois la plus sublime des choses ou la plus bouffonne des bêtises. Deux êtres jetés sur la terre par un hasard, quelque chose, et qui se rencontrent, s'aiment, parce que l'un est femme et l'autre homme. Les voilà haletant l'un pour l'autre, se promenant ensemble la nuit et se mouillant à la rosée, regardant le clair de lune et le trouvant diaphane, admirant les étoiles, et disant sur tous les tons, je t'aime, tu m'aimes, il m'aime, nous nous aimons, et répétant cela avec des soupirs, des baisers. Et puis ils rentrent, poussés tous les deux par une ardeur sans pareille, car ces deux âmes ont leurs organes violemment échauffés, et les voilà bientôt, grotesquement accouplés, avec des rugissements et des soupirs, soucieux l'un et l'autre, pour reproduire un imbécile de plus sur la terre, un malheureux qui les imitera. Contemplez-les, plus bêtes en ce moment que les chiens et les mouches, s'évanouissant et cachant soigneusement aux yeux des hommes leur jouissance solitaire, pensant peut-être que le bonheur est un crime et la volupté une honte. On me pardonnera, je pense, de ne pas parler de l'amour platonique. Cet amour exalté, comme celui d'une statue ou d'une cathédrale, qui repousse toute idée de jalousie et de possession, et qui devrait se trouver entre les hommes mutuellement, mais que j'ai rarement eu l'occasion d'apercevoir. Amour sublime, s'il existait, mais qui n'est qu'un rêve, comme tout ce qu'il y a de beau en ce monde. Je m'arrête ici, car la moquerie du vieillard ne doit pas ternir la virginité des sentiments du jeune homme. Je me serais indigné autant que vous, lecteur, si on m'eût tenu un langage aussi cruel. Je croyais qu'une femme était un ange. Oh, que Molière a eu raison de la comparer à un potage.
Chapitre 14.
Il fallut partir. Nous nous séparâmes sans pouvoir lui dire adieu. Elle quitta les bains le même jour que nous. C'était un dimanche. Elle partit le matin, nous le soir. Elle partit et je ne la revis plus. Adieu pour toujours. Elle partit comme la poussière de la route qui s'envola derrière ses pas. Comme j'y ai pensé depuis combien d'heures, confondu devant le souvenir de son regard ou l'intonation de ses paroles. Enfoncé dans la voiture, je reportais mon cœur plus avant dans la route que nous avions parcourue. Je me replaçais dans le passé qui ne reviendrait plus. Je pensais, je tuais assez vague, à son rivage, à tout ce que je venais de voir, tout ce que j'avais senti. Les paroles dites, les gestes, les actions, la moindre chose, tout cela palpitait et vivait. C'était dans mon cœur un chaos, un bourdonnement immense, une folie. Tout était passé comme un rêve. Adieu pour toujours à ces belles fleurs de la jeunesse, si vite fanées, et vers lesquelles plus tard on se reporte de temps en temps avec amertume et plaisir à la fois. Enfin, je vis les maisons de ma ville. Je rentrai chez moi, tout m'y parut désert et lugubre, vide et creux. Je me mis à vivre, à boire, à manger, à dormir. L'hiver vint, et je rentrai au collège.